Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Ce qu'il y a d'inexcusable et de profondément odieux dans le crime passionnel, c'est que le criminel n'y met pas un instant le droit ou la vie même des autres en balance avec la satisfaction des plus grossiers appétits. Et nous, malheureusement, c'est ce que nous refusons aujourd'hui d'y voir. Elle me résistait, je l'ai assassinée. Ou il ne voulait pas m'épouser, je l'ai vitriolée.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La presse du monde entier s'attache ce mois-ci au procès en cours d'Oscar Pistorius, cet athlète sud-africain paralympique, longtemps adulé pour la vaillance de ses succès, triomphant de son handicap originel et pour sa générosité ostensible envers les humbles. Le 14 février 2013, il a tué sa compagne, mannequin et présentatrice de télévision, en tirant 4 balles dans sa direction. La fascination universelle que crée le crime passionnel se trouve ainsi manifestée avec beaucoup d'éclat, comme cela advint aussi naguère dans le cas du footballeur américain O.J. Simpson, accusé, on s'en souvient, d'avoir assassiné en 1994 son ex-épouse et le compagnon de celle-ci. On ignore encore bien sûr ce que sera le verdict du procès Pistorius dans quelques jours, mais le tourbillon planétaire qui l'entoure témoigne de la grande variété des réactions de tous et de chacun envers la brutalité de tels événements et la manière dont il peut paraître légitime que les traite la justice des hommes. Une justice qui est forcément divisée entre l'effroi devant l'horreur du meurtre et la réflexion plus distanciée sur les circonstances atténuantes qui peuvent aller jusqu'à un acquittement. Donc, nous allons ce matin considérer la façon dont cette notion de crime passionnel a pu se définir au XIXe siècle et ce que cette émergence peut nous apprendre, entre hier et aujourd'hui, sur les sensibilités d'une société à tel ou tel moment. Benoît Garneau, professeur à l'Université de Bourgogne, vient de s'attacher à cette histoire dans un livre récent d'excellente facture et il m'a semblé que son enquête et les interrogations qu'elle suscite méritaient d'être évoqué à ce micro.
Allons-y, tu viens ramper autour de moi comme un serpent perfide et froid. Jalousie, tu arrives dans ta chaîne, mon cœur glacé d'effroi. Jalousie, tu viens salir de ton vol la blanche trame du destin. Jalousie, tu fais surgir la haine dans l'ombre du chemin. Jamais tu ne me livres ton secret, mais tu sais ce qu'il faut tour à tour pour empoisonner au long des jours mon amour. Jalousie, je sais par toi qu'un étranger a pris ma belle au cœur léger. Jalousie, j'attends dans ma folie la joie de me venger. Je cueillais la douce fleur de l'espoir et du bonheur comme au temps de ma jeunesse. Je cachais le désir de l'amour pour t'aimer comme on aime une enfant. Longtemps je t'ai vu grandir, m'inquiétant de tes soupirs et riant de ton plaisir. Mais tu n'es qu'une femme et j'ai peur de tes beaux yeux trompeurs. viens ramper autour de moi comme un serpent perfide et froid. Jalousie, tu rives dans ta chaîne, mon cœur glacé d'effroi. Jalousie, tu viens salir de ton venin la blanche trame du destin. Jalousie, tu fais surgir la haine dans l'ombre du chemin. Oh, mais tu ne me livres ton secret, mais tu sais ce qu'il faut tour à tour pour empoisonner au long des jours mon amour. Jalousie, je sais par toi qu'un étranger a pris ma mère au cœur léger. Jalousie, j'attends dans ma folie la joie de me venger.
Benoît Garneau, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre la chanson « Jalousie » interprétée avec quel éclat, quelle profondeur, quelle gravité par Armand Mestral, une chanson de Maurice Yvain et de Louis Potra en 1946. Je l'ai choisie, vous vous en doutez bien, parce qu'elle pose devant nous tout net la somme de passion qui va circuler dans cette émission. Cette jalousie qui va jusqu'à la haine et qui finalement, s'en prenant à la belle au cœur léger qui a fui avec un étranger, arrive à la punition, arrive au meurtre, à la vengeance.
Oui, c'est une vision impressionnante, mais qui est réductrice en même temps du crime passionnel et du crime d'amour. C'est un crime qui s'explique par l'amour, en apparence, mais qui fait intervenir d'autres causes aussi, en particulier l'honneur, qui n'est pas présent dans cette chanson le moins du monde. Et puis souvent, des choses qui semblent très loin de l'amour. Par exemple, la cupidité, qu'on camoufle sous des aspects amoureux, mais qui, en fait, est le véritable moteur de l'action.
Nous allons essayer de débusquer précisément toutes ces choses cachées sous l'apparence du crime passionnel. L'expression, même si la chose existe depuis longtemps, depuis très longtemps, peut-être depuis qu'il y a des hommes, l'expression crime passionnel remonte au 19e siècle.
Oui, elle remonte au début du 19e siècle. Probablement par le fait que le crime passionnel est devenu plus fréquent au XIXe siècle. Là, on marche sur des œufs en quelque sorte pour un historien, parce que c'est très difficile de savoir la différence entre la réalité criminelle et puis ce qui passe en justice. Mais on a une telle augmentation du nombre des affaires passionnelles traitées en justice au XIXe siècle par rapport à la période précédente qu'on peut supposer très probable l'augmentation dans les faits. Et donc, c'est le fait qu'on commette plus de crimes passionnels, qu'ils soient jugés beaucoup plus au XIXe siècle qu'auparavant, fait qu'on a été obligé, en particulier les journalistes, ceux qui ont créé l'expression, de trouver un mot. Auparavant, il n'y a pas de mot précis pour définir ce genre de crime du tout. Le dictionnaire, d'ailleurs, a repris l'expression, mais relativement tardivement. On l'a voit rentrer qu'au XXe siècle. Si vous ouvrez Littré, donc un bon siècle avant, vous n'avez pas un crime passionnel du tout. Donc c'est d'abord journalistique, ça passe dans le monde académique, dans le monde savant, après, tout simplement.
La question est évidemment de savoir ce que l'on cache et ce que l'on dit, car les statistiques de ce fait sont évidemment très difficiles. Quelles sont vos sources, Benoît Garneau, principales, pour travailler sur le crime passionnel ?
Mes sources sont d'abord judiciaires, c'est ma principale source, de toute façon. Seulement le problème, c'est que les archives judiciaires, elles sont pas toujours conservées complètement, surtout quand on s'éloigne dans le temps. Et puis, elles sont souvent peu loquaces. On a simplement l'accusation et la sentence, donc on peut pas aller voir véritablement ce qu'il y a derrière.
Je voudrais que nous commencions par une sorte de, comme vous le faites d'ailleurs dans votre réflexion, par une sorte d'inventaire des crimes passionnels, puisque vous venez de nous dire d'entrée de jeu, les historiens sont habitués, que c'est plus compliqué qu'on ne croit.
C'est plus compliqué.
Et je voudrais que nous entrions dans cette réflexion en donnant d'abord la parole à maître René Floriot, qui était un très grand maître, un très grand avocat du barreau, et qui, sur les ondes de Paris Inter, dans un entretien avec André Chanu, s'exprime de la sorte le 25 novembre 1956. Le ton est d'époque, visiblement. Les interlocuteurs lisent leurs textes.
Nous avons fait appel à maître René Floriot, qui, vous le savez, a plaidé de très nombreuses causes passionnelles, et nous voudrions lui demander aujourd'hui ce qu'il pense, lui, de ces drames, et s'il pense qu'ils sont toujours dirigés par l'amour, qu'ils ont toujours pour mobile, de départ, l'amour. Maître ?
C'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre. Il est bien certain que l'amour a dans un drame passionnel une place déterminante. Mais on peut également penser que d'autres sentiments, comme le dépit, la rancœur, le désir de vengeance et même des questions purement matérielles, peuvent avoir joué un rôle. Le meurtrier lui-même serait peut-être bien incapable de déterminer quels ont été exactement les sentiments qui ont armé son bras.
Mais votre opinion solide, définitive sur l'amour, c'est que l'amour est tout de même le départ et l'élément le plus déterminant.
Ah, je le crois. Et je vais même plus loin. Je pense que dans un grand nombre de cas, l'amour est le seul sentiment qui a déterminé le meurtrier à commettre son acte.
Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples ?
Eh bien, prenez par exemple une femme très riche qui a un amant et personne ne connaît son aventure. Un jour, son amant la quitte. Son amour-propre n'est pas blessé. Personne ne connaît cette rupture. Sa situation matérielle n'est pas affectée et néanmoins elle abat l'infidèle. À quel sentiment a-t-elle obéi sinon à l'amour ?
Oui, bien sûr. Vous nous proposiez un deuxième exemple. Quel est-il ?
Eh bien, un exemple qu'on rencontre très fréquemment. Celui où le meurtrier, après avoir tiré, retourne l'arme contre lui-même et se donne la mort. S'il avait simplement voulu assouvir une vengeance, un dépit, une rancune, il n'aurait jamais pensé à se donner la mort. S'il se donne la mort, c'est bien la preuve qu'il estime ne pas pouvoir survivre à son amour brisé. J'ajoute du reste un fait. C'est que dans un très grand nombre de cas, le meurtrier passionnel se désintéresse de son sort. Il est même indifférent à la peine qu'il encourt. C'est à mon ami la meilleure preuve qu'il continue à aimer l'infidèle, même après la mort de celui-ci.
Vous avez connu vous-même un grand nombre de ces criminels.
Soyons modestes, quelques-uns.
Merci beaucoup.
Alors, Benoît Garneau, René Fleuriot ici s'efforce de trouver le pur crime passionnel, libre d'autres motivations plus ou moins dissimulées. Est-ce que cela suffit à épuiser le sujet ?
Non, je crois qu'il me paraît un peu idéaliste. D'ailleurs, quand il parle de cette dame plus âgée nettement que son amant qui est abandonné, et quand il dit qu'elle ne se venge que par amour et que son amour propre n'est pas blessé, je crois qu'il exagère un petit peu. Je pense que cette dame a l'amour propre blessé. Oui, en fait, il y a différentes catégories de crimes passionnels. Je crois qu'on peut en distinguer trois. Les amants victimes, d'abord.
Amant victime
de celui qui a été abandonné. Et c'est celui qui a été abandonné qui devient le criminel passionnel et qui se débarrasse par conséquent, par vengeance ou par jalousie, on peut trouver des tas de causes, des individus concernés.
Et vous distinguez aussi les amants criminels.
Alors, deuxième catégorie, les amants criminels, ce sont les nouveaux amants qui se débarrassent de l'ancien. Donc, on se débarrasse, par exemple, du mari gênant, on se débarrasse, ou de la femme gênante, puisqu'on a trouvé un nouvel amour ainsi. Et puis, il y aurait une troisième catégorie qu'on peut appeler les amours impossibles. Enfin, là, un tiers n'intervient pas finalement. Il n'y a que les deux amants. S'ils ne peuvent pas vivre leur amour, bien, ils peuvent décider de disparaître. Donc, ils se tuent. Enfin, l'un tue l'autre. Et puis, le survivant directement se tue aussi. Souvent, d'ailleurs, il se manque dans ces cas-là.
Les Capulet, les Montaigu, Roméo et Juliette.
Oui, c'est tout à fait ce genre d'aventure, en quelque sorte. Les amours impossibles. Ou bien quand on est amoureux de quelqu'un, il n'y a pas de rival, mais en face, la personne ne répond pas à l'amour. Par dépit, bien, on tue la personne en question. C'est encore une forme d'amour impossible ainsi. Vous voyez, c'est polymorphe, quoi. Il y a beaucoup, et vous pourrez même distinguer encore plus dans les détails, dans cette typologie-là.
Vous montriez que ces catégories peuvent s'appliquer à la haute antiquité, déjà. Au fond, oui. La guerre de Troie commence par un crime passionnel, même si Ménélas, allant rechercher son épouse qui a dérobé Paris, est probablement mû aussi par d'autres motivations. Et son frère Agamemnon, sûrement, en tout cas, les battre trois. Et puis, il y a le cas de David et de Bethsabée, que vous pouvez nous rappeler dans la Bible.
Oui, David devient amoureux de Bethsabée. Il envoie le mari de Bethsabée à la guerre, dans une position très dangereuse, et il finit par se faire tuer. C'est une forme de crime passionnel indirect, finalement.
Assez habilement conduit, parce qu'il ne peut guère être puni.
Non, en plus, il est le roi, donc il a... Mais, oui,
L'Ancien Testament est une source inépuisable de violence.
Absolument, mais la mythologie aussi. En fait, tous les cas de figure, on les retrouve dans les mythologies, on les retrouve dans l'Ancien Testament, ce qui prouve que c'est une pratique ancienne, même si elle s'est sans doute augmentée en nombre depuis deux siècles.
Est-ce que nous pouvons évoquer avec vous d'abord l'évolution du crime passionnel avant qu'il soit désigné comme tel, oui, à l'époque du Moyen-Âge? Comment, en quelque sorte, il émerge sous l'attention publique?
En fait, jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, quand le mariage n'est pas encore un sacrement, pas vraiment institutionnalisé, les affaires de ce type sont traitées au sein des familles. Donc, la justice n'intervient pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une façon de gérer les choses, mais la justice n'intervient pas, donc on n'a pas d'archives. Et à partir de là, on ne peut pas en tirer de conclusion. C'est à partir de la fin du Moyen-Âge, quand le mariage devient une institution, que la justice essaye de maintenir un ordre normal entre les conjoints et par conséquent intervient, cette fois dans le fort privé, dans les affaires privées, quand il y a assassinat d'un conjoint par un autre ou bien d'un amant ainsi.
C'est un impact de la sacramentalisation du mariage.
Exactement. Le crime passionnel, probablement, devient beaucoup plus quelque chose de matrimonial à partir du moment où le mariage a été sacralisé qu'il ne l'était auparavant. Et comme en même temps, le couple marié devient le fondement de la société, de l'organisation, l'État intervient pour empêcher toutes les déviances dans ce domaine. Donc on va trouver davantage dans les archives de sources judiciaires, puisque la justice s'intéresse maintenant à ce genre d'affaires. Mais elle s'y intéresse, mais finalement on en trouve peu. Au XVe siècle, au XVIe siècle, les cas sont extrêmement rares. Ça augmente un petit peu au XVIIe, un petit peu plus au XVIIIe siècle, et puis c'est au XIXe siècle que les chiffres deviennent beaucoup plus importants.
Là encore, c'est parce que probablement on en sait davantage. Parce que dès le 16e siècle, vous nous montrez assez bien comment s'installe une sorte de dialectique entre un narcissisme exacerbé et une jalousie qui peut devenir maladive, celle que chantait Mestral tout à l'heure.
Oui, enfin, c'est une attitude psychologique qui est née auparavant, de toute façon. Mais ce sont ces deux composantes psychologiques qui, d'après les spécialistes aujourd'hui en particulier, expliquent que certains tombent dans le crime passionnel et pas d'autres. Il y a des traits psychologiques qui sont, d'une part, donc, ce narcissisme exacerbé, alors qui vient de la petite enfance, qui vient du fait qu'on n'a pas été assez aimé pendant l'enfance, donc on n'a pas confiance en soi. Et quand on est trahi, entre guillemets, par quelqu'un qu'on aimait, on se déprécie soi-même et on a tendance à passer à l'action. Bon, ça, c'est le premier trait psychologique. Et le second, c'est la jalousie maladive qu'on a eu illustrée par une chanson il y a quelques instants. C'est la somme, en fait, de ces deux traits psychologiques, qui datent pas d'aujourd'hui, hein, qu'on peut trouver à toutes les époques, mais sans doute plus depuis le 19e siècle, qui explique que certains passent au crime et pas d'autres.
Alors, si on arrive au 17e ou au 18e siècle, comment évoluent ces crimes passionnel?
En fait, ce qui se passe au XVIIe, au XVIIIe siècle, c'est, pour replacer ça en fait dans l'histoire de la famille, se replie sur elle-même au XVIIIe siècle, l'intimité familiale se développe et donc on passe à une organisation qui est fondée sur le couple et les enfants. Alors qu'auparavant, la famille était beaucoup plus ouverte sur les collatéraux. Le fait de se refermer ainsi a fait que beaucoup d'enfants n'ont pas trouvé les formes d'amour qu'ils pouvaient trouver auparavant auprès des cousins, des oncles, des tantes. Donc ceux qui se sont retrouvés avec des parents qui n'auront pas donné l'amour suffisant n'ont pas pu compenser ailleurs, à l'extérieur. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le nombre des crimes passionnels augmente. Puisqu'on a un terreau plus fertile, on a davantage de gens au 19e siècle et au 18e, puis au 19e, qui sont susceptibles de passer au crime passionnel.
Mais en même temps, le déclin des familles larges aboutit à un déclin aussi des vendettas à la Corse. Et par conséquent, la complexité des chaînes qui s'instituent et qu'on voit encore si terriblement au travail dans beaucoup de pays contemporains, je pense par exemple à l'Inde ou aux divers pays, nations méridionales, cela décline en France.
Oui, en fait, il y a un changement de perspective de la violence. La violence vengeance décline, mais la violence passionnelle augmente. Il y a une sorte de vase communicant de cette façon-là. Et aujourd'hui encore, les spécialistes, les policiers, les gens de justice observent qu'il y a une espèce de seuil sous lequel le nombre des crimes passionnels ne baisse pas. Les homicides, en général, baissent de plus en plus. On n'a plus beaucoup d'homicides non passionnels en apparence dans la France d'aujourd'hui. Mais les crimes à connotation passionnelle, eux, restent en nombre toujours au même niveau.
Il y a comme un seuil.
Oui.
Mais j'observe qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas si les statistiques sont absolument assurées, vous nous le direz, 350 personnes qui mourraient par an sous l'effet de crimes passionnels et 80% de femmes. Est-ce que cette suprématie sombre des femmes, du point de vue du crime passionnel, de ceux qui en subissent les effets, est-ce qu'elle s'observe déjà à la fin de l'Ancien Régime et au XIXe siècle?
C'est un problème assez compliqué parce que on dit, bon, bien sûr, il y a beaucoup plus de femmes victimes et d'hommes coupables, c'est tout à fait la vérité. Et certains ont conclu que ça renvoie à la domination de l'homme sur la femme, multiséculaire, et qu'en fait, les hommes tuent parce que les femmes les ont quittés, et les femmes tuent parce qu'elles sont battues, donc c'est pour se défendre. Donc finalement, on peut les comprendre d'une certaine manière. Je crois que c'est une façon assez réductrice de voir les choses, dans la mesure où, d'abord, les femmes qui tuent disent qu'elles l'ont fait parce qu'on les battait. Mais en fait, c'est en général un argument en justice pour avoir des circonstances atténuantes. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Et puis surtout, le problème, c'est que 20, 25%, 30% peut-être de femmes coupables de crimes passionnels, c'est beaucoup plus que la part habituelle des femmes dans la criminalité. La part habituelle, c'est autour de 10%. Là, on arrive presque à 30%.
C'est à peu près le pourcentage, 10% des femmes, je crois, emprisonnées voilà. Aujourd'hui. Alors,
exactement.
Vous parlez des femmes, en voici une. Voici Fréhel. Fréhel, qui chante en 1927, l'obsédée. Vous allez voir, elle n'arrive pas tout à fait à l'accomplissement de son crime, mais elle en rêve. C'est une chanson de Léo Daniderf et Fleurigny.
Si je n'étais pas devenue tellement lâche, à force d'avoir sans relâche frôlé mon cœur à ton sein nu, je te tuerais comme une chienne gueuse qui m'a tranquillement trompée pour un nouvel amant, sans même qu'un remords te vienne. Tu planterais dans ton sein nu qui tousse les tempes la lame rouge et tremblotante du premier coup de la venue. Et je crèverai de piqûres tes yeux au regard caressant, de filles appelant les passants le long des ruelles obscures. Je les brûlerai d'un tison tes lèvres roses, tes lèvres qui disent des choses où somnole une trahison. Et je balafrerai tes hanches, tes flancs et leurs duvets cendrés, de quelques proies de Saint-André, faisant sillon dans tes chairs blanches. Mais quoi, tes lèvres m'ont menti, j'en veux encore. Menti tes yeux, j'en veux encore, en t'implorant ton repenti. Je vais à nouveau sans relâche frôler mon cœur à ton sein nu, puisqu'hélas je suis devenu à force de t'aimer si lâche.
Fréhel ou le crime inabouti, Benoît Garneau?
Oui. Inaboutie, mais c'est pas sûr finalement, peut-être qu'elle va passer à l'acte après. Ça prouve bien justement que les femmes aussi participent à ce genre de crime. On a beaucoup de cas au XIXe siècle que la presse a beaucoup mis en exergue, notamment le cas de Marie Brière et de la comtesse de Tilly.
Il nous intéresse à cause du vitriol, voilà la première ouais. arme, enfin une arme importante.
La comtesse de Tilly, elle a vitriolé sa rivale. Elle était la femme souvent trompée du comte de Tilly à Saintes. Elle était tuberculeuse en plus, qui faisait pitié à l'entourage. Et un jour, elle a envoyé du vitriol sur le visage de sa rivale.
Acide sulfurique.
Acide sulfurique. C'est terrible, l'acide sulfurique. Et elle a été donc jugée, elle a été acquittée. Parce qu'en fait, elle avait défendu son honneur, a-t-elle dit. Elle n'a pas fait ça par amour, elle a fait ça pour défendre son honneur et l'honneur de ses enfants. Donc, le crime passionnel n'est pas qu'un crime d'amour, justement.
Le Vitriol est intéressant parce qu'il montre l'importance des crimes d'imitation. Il y a une sorte de... Il y a des types d'assassinats à la mode. J'observe dans le Figaro, d'ailleurs, de décembre 1880, qu'on lit ceci. Le Vitriol est comme la République. Le Figaro était hésitant à l'égard de ce régime nouveau. Oui. Et se démocratise chaque jour davantage. Après avoir passé par les nobles mains de Madame de Tilly, le terrible acide devient l'instrument des vengeances plébéiennes. Fin de citation.
Le chroniqueur du Figaro avait beaucoup de talent, mais il dit la vérité, en ce sens que le Vitriol a été un moment spécifique, à la fin du 19e siècle. Il y a des modes. Le Vitriol a été à la mode à la fin du 19e siècle. Chose de terrible, d'ailleurs, le Vitriol. Ça a à peu près disparu ensuite.
Mais pouvait aveugler.
Oui, ça aveugle, mais ça ronge les tissus, donc le visage, la poitrine, etc. Parfois, d'ailleurs, il arrive même que les vitrioleurs, les vitrioleuses, parce que c'était surtout des femmes, par maladresse, se mettent du vitriol sur elles-mêmes aussi. Mmh. Donc, il y avait une double peine, en quelque sorte. Ce n'est pas totalement terminé, puisqu'il y a un an ou deux, il y a eu un cas dans le Jura d'une femme qui a vitriolé sa rivale ainsi. On n'en parle pas beaucoup dans la presse, mais c'est ce qui s'est passé. Elle l'a attaqué avec un cutter et du vitriol, encore aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup, paraît-il, au Bangladesh, par exemple, ou en Inde, où on a chaque année plusieurs dizaines ou centaines de cas de femmes qui sont vitriolées ainsi.
Vitriol aussi pour Marie Bière,
oui,
ce qui montre que ça n'est pas, il n'y a pas tellement de lecture sociale possible. On trouve les crimes passionnels, en tout cas au 19e siècle, dans
Le crime passionnel va dans toutes les couches sociales jusqu'au plus haut. Le duc de Choiseul-Pralin, par exemple, tue sa femme. Pourtant, c'est un très très grand personnage. Il se suicide après, d'ailleurs.
Scandale qui contribue d'ailleurs au mauvais climat de la fin de la monarchie de Juillet.
Tout à fait, c'était à jouer dans cette ambiance-là. Il n'y a pas de lutte de classe, en fait, dans le crime passionnel.
Il n'y a pas d'armes qui soient typées socialement, spécialement
Non, il n'y a pas d'armes typées socialement. On trouve toutes les armes dans tous les niveaux de la société. Sans beaucoup de changements, d'ailleurs, au fil des années, à part quelques nouveautés. Bon, les armes à feu ne sont pas présentes, évidemment, pendant l'Antiquité. Alors, majoritairement, ce sont les armes les plus simples. Donc, ce sont les armes, les couteaux, et puis les poings, tout simplement. Les poings, les pieds, enfin, les coups.
Et puis, il y a le poison.
Alors, le poison, c'est quelque chose d'assez difficile à interpréter, parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de prouver que quelqu'un a été empoisonné. Mais au XVIIe siècle, au XVIe siècle, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. La science n'est pas assez avancée pour cela. Alors traditionnellement, on considère que les femmes emploient plus le poison que les hommes, ce qui est possible.
Pour ne pas rester abstrait et pour faire saisir un crime parmi d'autres, en voici un qui, tiré de la chronique des tribunaux, 21 octobre 1875. Ce sont ces journaux qui sont très très utiles, évidemment, pour restituer la diversité des crimes passionnels dont nous parlons ce matin. C'est une archive qui provient des chemins de la connaissance de Roland Auguet, le 16 octobre 1984.
Par une étrange prédestination, elle s'appelle Moutarde. Et elle comparaît aujourd'hui devant la cour d'assises de la Seine, non, il est vrai, pour avoir traité son mari au sinapisme malgré lui, mais pour l'avoir un peu proprement débarbouillé avec du vitriol. Quand on a un nom aussi caustique que celui de Moutarde, un tel procédé n'a rien qui doive étonner. Seulement, Charrier, le mari, a eu le tort d'épouser, sans y regarder à deux fois, une femme de 40 ans, surtout s'il avait lu auparavant l'opinion détaillée de Balzac sur la femme de 40 ans. Bref, en janvier dernier, Charrier, homme rassis de 50 ans, ancien sous-brigadier de sergent de ville, épousait en toute cordialité Marie Moutarde. Et 6 mois plus tard, le 14 juillet suivant, la lune de miel se dénouait par la tentative de vitriolisation qui amène aujourd'hui l'épouse sur le banc des accusés. Il paraît que Marie n'avait pas tardé à rendre son homme fort malheureux. D'après lui, elle serait d'une malpropreté révoltante et d'une avarice sordide. Elle le faisait littéralement mourir de faim, l'accablait de reproches et de mauvais traitements. Pourtant, il s'était résigné à prendre ses repas au restaurant, à vivre ses journées loin d'elle et ne rentrer que le soir. Mais elle le disputa et le malmena encore. Enfin, elle s'avisa de lui faire des scènes de jalousie. Il avait assisté à un baptême en compagnie d'une jeune cuisinière. Elle prétendit que cette cuisinière était sa maîtresse. Le matin du 15 juillet 1875, le sieur Charrier balayait la salle à manger en présence de sa femme qui se préparait à manger. Une querelle s'éleva. Elle me dit « Va donc chercher la pourriture avec laquelle tu étais jeudi. »
Je répliquai, je n'ai pas besoin d'aller chercher dehors ce que j'ai chez moi. Ils échangèrent des injures. Elle sortit de la salle à manger, entra dans sa cuisine et revint, tenant à la main une tasse dont elle lança le contenu au visage de l'accusé. Il s'agissait d'acide sulfurique. Ce matin-là, contrairement à ses habitudes, elle avait bu un verre d'absinthe.
J'ai choisi Benoît Garneau, j'ai choisi cet extrait parce qu'il me paraît poser plusieurs des questions que fait naître la réflexion sur le crime passionnel. D'abord, la question de l'alcoolisme, ce qui peut finalement troubler la conscience du criminel. La question de la préméditation aussi. On ne sait pas si cette femme a été emportée par la colère, mais comme elle avait de l'acide sulfurique disponible, peut-être y avait-elle songé quelque peu à l'avance, non ?
Oui, ces deux caractéristiques sont essentielles. L'alcool ou n'importe quelle autre, enfin une drogue aujourd'hui en particulier, intervient dans la majorité des cas, dans des proportions qui peuvent varier. Mais ça participe aussi peut-être à l'augmentation au XIXe siècle parce que l'alcoolisme s'est développé en France au XVIIIe siècle et encore plus au XIXe siècle.
L'absinthe, la redoutable fléau.
L'absinthe, entre autres choses, oui. Et pour passer à l'acte, pour avoir le courage, eh bien, on a besoin de cela souvent. Quant à la préméditation, elle est attestée. Quand on a un dossier complet, on se rend compte que dans au moins 90% des cas, il y a une préméditation. Contrairement à ce que disent d'ailleurs souvent les criminels personnels eux-mêmes, qui disent brusquement « j'ai été pris par la colère, j'ai pas pu me contrôler, et puis voilà, je n'ai pas fait exprès, quoi, finalement ». En fait, il y a préméditation, plus ou moins nette, plus ou moins évidente. Et vous l'avez bien dit, si elle avait du vitriol chez elle, ce n'était pas pour assaisonner la cuisine, même si elle l'avait mise dans la cuisine, c'était évidemment pour un but tout à fait évident, elle avait prévu cela. Alors peut-être à tel ou tel autre moment, mais on peut s'énerver plus à un moment et prendre l'arme qu'on a prévue, on avait déjà prévu l'arme.
Je voudrais que nous regardions ensemble maintenant, si vous voulez bien, la place de la littérature en face du crime passionnel dans ce 19e siècle que nous considérons. Il y a d'ailleurs souvent un dialogue entre la réalité et les romans. Je pense à Stendhal dans Le Rouge et le Noir qui s'inspire d'une chronique d'un crime réel.
Alors le problème de la littérature, d'abord c'est qu'on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Donc on a plutôt intérêt à mettre des criminels que des gens qui ne le sont pas. Globalement, les écrivains sont plutôt des gens qui pardonnent aux criminels passionnels ou qui les comprennent, qui considèrent que ces crimes sont au-delà de la justice, qu'elle n'a pas à intervenir ou du moins qu'elle a à pardonner.
Des exemples alors, précisément.
Alors, les Dumas, père et fils, en particulier le père avec Anthony, dans les années 1820, une pièce de théâtre qui met en scène un crime passionnel, ainsi, conséquence d'un adultère, et qui donne au criminel passionnel beaucoup de noblesse, et qui a eu un très grand succès d'ailleurs à ce moment-là.
Qui a créé beaucoup d'émotions parmi les classiques, en particulier cette formule fameuse « Elle me résistait, je l'ai assassinée ».
Je l'ai assassinée, et sous les applaudissements des spectateurs. Évidemment, Le Rouge et le Noir est la grande œuvre correspondant à cela, mais dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel, le héros, le dit lui-même, son crime ne l'a pas déshonoré, dit-il. Et Stendhal a l'air d'approuver cela. Et, bon, et s'il est finalement exécuté, ça tient au fait que les jurés étaient, pour des raisons sociales ou diverses, hostiles à Julien Sorel. Mais ce n'est pas parce que le crime était impardonnable. D'ailleurs, la victime qui en a réchappé, Madame de Rênal, elle-même a pardonné aussitôt. Elle, non seulement elle a pardonné, mais elle a tout fait pour que son assassin fût gracié, même s'il n'y est pas arrivé. Alors après, on a Baudelaire, lui aussi comprend tout à fait ce genre de pratique, sans pour autant penser que ce soit vraiment bien, mais il pense que c'est inévitable.
Baudelaire comprend et en même temps, il donne des couleurs sinistres.
Voilà, il comprend, il dit « je ne pouvais pas faire autrement, quoi, finalement, mais je n'en tire pas gloire. Et d'ailleurs, je vais boire pour oublier. Et si une charrette me passe sur la tête quand je serai ivre-mort sur le chemin, après tout, ce ne sera pas plus mal. »
C'est le vin de l'assassin. Ouais. Cela remonte, je rappelle, les Fleurs du Mal remontent à 1857. « Ma femme est morte, je suis libre. » Je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux. L'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux.
Alors après, Zola, lui, est beaucoup plus critique. Il considère que le crime passionnel, ça va forcément aboutir sur des conséquences qui seront nuisibles ensuite. Il peut comprendre le crime passionnel, mais il faut mieux l'éviter parce que ça finira mal après pour les amants, par exemple, qui ont tué la personne gênante. Mais celui qui apporte une optique un peu nouvelle, fin 19e, mais plutôt début 20e siècle, c'est Marcel Proust. Il a été tenté de commettre un crime passionnel, quand son amant le quitte. Enfin, dans le roman, c'est Albertine, mais quand Albertine s'en va, il est tenté de la tuer. Et puis, seulement, elle a un accident, comme avait eu son amant, elle meurt, et puis donc, il n'a pas l'occasion de la tuer. Et puis ensuite, quelques années après, il se rend compte que son amour a disparu, a décliné, et que par conséquent, ce n'était pas la peine de la tuer à ce moment-là, quelques années avant, puisque l'attente permet d'éviter de passer au crime passionnel, parce que l'amour lui-même disparaît. C'est d'ailleurs ce que disait Montaigne déjà au XVIe siècle. Enfin, si la colère vous prend et que vous voulez tuer, eh bien essayez de patienter un petit peu et ça ira mieux dans quelques instants ou dans quelques heures ou dans quelques jours et ça permettra d'éviter le crime passionnel. Ainsi.
Nous livrons ce précepte de Montaigne à nos auditrices et à nos auditeurs.
Ouais. N'est-ce pas, c'est tout le problème de la gestion des passions, quoi, finalement. Est-ce que les passions sont plus fortes que l'individu? C'est ce que disent certains philosophes et certains moralistes. Est-ce que l'individu peut dominer ses passions?
Dites-nous un mot aussi de Thérèse Desqueyroux, parce que ce roman de François Mauriac, qui se place dans la bourgeoisie bordelaise,
oui,
est également tout à fait topique d'un certain regard, cette fois-ci au XXe siècle, sur le crime passionnel.
Oui, au XXe siècle. Mauriac se situe, enfin, on peut être étonné a priori, mais en fait, il comprend très bien le crime passionnel en question. Thérèse Desqueyroux a essayé de tuer son mari en l'empoisonnant. Bon, finalement, elle n'a pas réussi, mais elle a été jugée et condamnée. Enfin, elle n'a pas été condamnée, exactement, puisque son mari a témoigné pour dire que rien ne s'était passé, quoi. Et ensuite, c'est lui-même qui applique un châtiment privé, en quelque sorte, en l'exilant, en l'empêchant de parler, de s'exprimer, de sortir, etc. etc.
On revient
donc
au Moyen-Âge,
c'est une autre
en fait.
Façon de procéder. Enfin, il ne la tue pas, mais il la tue moralement, quoi, finalement. Mauriac considère, il le dit dans un autre petit texte après, que ses crimes, celui-là ou d'autres, sont des crimes qui sont au-delà de la justice des hommes. Les hommes ne sont pas capables de juger ce genre de passion, que ceux qui sont pris par ces passions sont finalement des êtres assez supérieurs et qu'un vulgaire jury n'a pas à juger ce genre de choses.
C'est un peu ce que nous dit au fond cette chanson de Charles Aznavour et de Pierre d'Orsay qui remonte à 1956, qui s'intitule « Accusé, levez-vous », interprété par Jacqueline François.
Accusé, levez-vous, l'heure a sonné pour vous d'essayer de sauver votre tête. Car personne ici-bas n'a jamais eu le droit de dicter ou d'imposer sa loi. Je l'avoue, je l'ai tué, rien de prémédité, ça m'a pris tout à coup dans la tête. J'ai perdu mon sang-froid et pourtant, croyez-moi, de nous deux, la victime, c'est moi. Mais mains sont souillées du sang de mon cœur, elles ont serré trop fort mon bonheur. Quand je les regarde, elles me font peur, car elles sont froides et n'ont pas de cœur. Je vois son visage au fond de mes nuits et son corps volage étendu sans vie. J'ai tué ma chance, je n'ai plus d'espoir et plus d'espérance. Et quand vient le soir, parfois ça frappe dans ma tête. Pour moi, le drame se répète. Je vois tout ce qui s'est passé avant de me jeter au banc des accusés. Accusés, levez-vous, l'heure a sonné pour vous, vous devez écouter la sentence. Les membres du jury à l'unanimité vous condamnent à perpétuité. Oh non, vous ne pouvez prendre ma liberté, Dieu m'accorderait plus de clémence. Vous n'avez pas le droit, lâchez-moi, lâchez-moi. De nous deux, la victime, c'est moi. Vous n'avez pas le droit, lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi.
On voit là l'évolution de la justice. Et on voit aussi d'ailleurs le rôle de la presse, n'est-ce pas, Benoît Garneau, qui est très importante au XIXe siècle, la grande presse populaire, pour l'interprétation de l'idée qu'une société se fait du crime passionnel et en définitive, en second ressort, de la manière dont cette société, par l'intermédiaire de ses jurys, va le punir ou au contraire acquitter ses auteurs?
La grande presse a fait ses choux gras des crimes passionnels dans la seconde moitié du 19e siècle, au début du 20e siècle. Mais là aussi, il faut replacer les choses dans une perspective plus large. On a trop tendance souvent à focaliser uniquement sur les crimes passionnels. En fait, elle a fait ses choux gras des crimes violents. Elle s'est rendue compte que ces crimes faisaient vendre, que le sang faisait vendre. Et parmi les crimes sanglants, il y a les crimes passionnels, qui en plus présentent l'avantage pour la presse de mettre en scène des individus banals. Un grand criminel, un tueur en série, un grand voleur, ce n'est pas quelqu'un de banal, alors qu'un criminel passionnel, c'est quelqu'un, pense les lecteurs, qui pourrait être comme vous ou moi.
Identification.
Ça peut arriver à tout. Identification. Les lecteurs jouent un peu à se faire peur, ou bien ils se mettent à la place du criminel passionnel. C'est une façon pour eux d'évacuer peut-être une envie de tuer le conjoint.
On assiste de fait à une hausse considérable de la place des faits divers dans la presse, oui. et de la vente de la presse populaire qui parle des faits divers dans cette seconde moitié du 19e siècle.
C'est justement les affaires Marie Brière et comtesse de Tilly qui ont marqué l'arrivée et l'augmentation très forte de la place des crimes passionnels dans tout cela.
Il est d'ailleurs curieux d'observer, il y a eu un beau travail de Claire Secaille à ce propos, que dans l'histoire de la télévision française, on voit à partir des années 70 augmenter considérablement la place des faits divers, en particulier dans les journaux télévisés. C'est comme s'il y avait une sorte de répétition à l'identique beaucoup plus tard avec ce nouveau média.
C'est exactement cela. D'ailleurs, il y a encore aujourd'hui, assez souvent, dans les médias audiovisuels, des émissions sur le crime passionnel en particulier et sur les crimes en général. Il y a même des chaînes spécialisées sur les affaires judiciaires ainsi. Tout ça, ça renvoie bien sûr à la façon dont l'opinion perçoit ce genre de crime.
Ça conduit à une réflexion aussi très directe sur le problème de l'indulgence, c'est-à-dire la manière dont, au XIXe siècle, les crimes passionnels sont traités dans les prétoires. Comment est-ce que vous définiriez l'évolution, disons, depuis la Révolution française jusqu'aujourd'hui? Il y a des phases successives.
Oui, il y a des phases qui dépendent de plusieurs raisons. Mais il y a une première raison dont on ne parle pas assez souvent dans ces cas-là, c'est le changement d'organisation de la justice. Avant la Révolution, les magistrats, les gens qui décident de la peine, sont des magistrats professionnels. Et ils ont une très grande liberté de choix. Ils ont un libre arbitre, donc ils peuvent condamner quelqu'un à peu ou à beaucoup en fonction des circonstances.
Parfois rémission par le roi, mais c'est très rare.
Oui, c'est extrêmement rare ce genre de choses.
Cette question des rémissions est intéressante, Benoît Garneau, parce qu'elle montre la dialectique compliquée entre la justice laissée à elle-même, avec ses évolutions propres, et l'attitude du pouvoir exécutif, puisqu'il s'agit pour le roi de lever une peine.
Il s'agit même encore plus d'arrêter une procédure judiciaire. C'est même avant la peine que la rémission peut être faite. Alors là, il faut être bien clair aussi et ne pas tomber un peu dans des idées reçues qu'on trouve dans pas mal de littérature et même chez certains historiens. Bon, en théorie, sous l'Ancien Régime, le roi peut en pratique d'ailleurs remettre tous les crimes, décider qu'il n'y a pas crime. Et dans le cas des crimes passionnels, il y a normalement une tolérance en ce sens qu'un homme... Ça concerne que les hommes. Un homme qui surprend sa femme en flagrant délit d'adultère.
Chez lui, il faut que ce soit chez lui.
Chez lui, c'est une autre nécessité. Et qui, sans préméditation, les tue ou la tue, est susceptible de demander la rémission du roi. En fait, cette possibilité, elle a été très rarement appliquée. Elle a été de moins en moins au fil des années. On n'en trouve plus au XVIIIe siècle, pratiquement plus au XVIIe. Quelques cas au XVIe, mais qui sont très très peu nombreux. C'est d'autant plus compréhensible que le roi et la justice sont bien conscients qu'en fait, il y a pratiquement toujours préméditation. Que quand on a tué et qu'on prétend qu'il n'y a pas préméditation, c'est une mise en scène dans la plupart des cas. Le chancelier, le ministre de la Justice, le roi ne sont pas dupes de ce genre de choses. En plus, ils ne peuvent pas laisser exercer une justice privée. À un moment où l'État absolu essaye de s'imposer de plus en plus. Donc, il faut abandonner l'idée selon laquelle, sous l'Ancien Régime, un homme pouvait tuer impunément sa femme adultère. Dans les procès, on voit très nettement qu'un homme qui tue sa femme, il est condamné à mort si c'est prouvé, si le crime est prouvé. Alors, cette possibilité, elle a duré au XIXe siècle, et même légalement jusqu'en 1975. Si on, dans les mêmes conditions, si on surprenait sa femme en délit d'adultère et chez soi, l'homme qui tuait pouvait avoir une excuse de crime.
C'est-à-dire... Le contraire n'était pas vrai ?
Non, le contraire n'était pas vrai. C'est uniquement dans ce sens-là que ça fonctionne. Il y a une tolérance théoriquement, mais qui n'est pas une permissivité qui n'est pas un acquittement. On dit souvent que on pouvait tuer quand on était acquitté, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on, les circonstances sont vraiment celles-là, s'il n'y a pas de préméditation, le crime devient un délit. Donc on est susceptible d'être condamné à beaucoup moins que si c'était un crime. Mais il n'y a pas impunité. Et puis en plus, c'est passé extrêmement rarement parce que les circonstances sont tellement drastiques pour en arriver là qu'il n'y a pas très très peu de cas finalement.
Que les femmes n'aient pas été concernées démontre qu'il y avait encore beaucoup de progrès à faire pour le féminisme.
Au 19e siècle, les choses ont changé, c'est la cour d'assises, donc ce sont les jurés populaires. Et les jurés populaires, on leur demande une chose, une seule: l'accusé est-il coupable ou est-il innocent ?
Intime conviction.
Intime conviction. On peut donc décider sans preuve ou avec preuve. Mais le problème essentiel, c'est qu'une fois qu'ils ont décidé la culpabilité ou l'absence de culpabilité, les juges appliquent la loi en fonction de cette décision. Et si on décide que le criminel passionnel est coupable, eh bien c'est forcément la peine de mort s'il y a préméditation, et les travaux forcés à perpétuité, ou un peu moins s'il y a des circonstances atténuantes. Donc ce que les jurés très souvent pensent, leur réaction, c'est d'accord, il ou elle est coupable, mais son crime est beaucoup moins grave que le meurtre commis par un criminel en série ou des choses comme ça. Donc si nous disons qu'il est coupable, il va avoir ou elle va avoir le même châtiment qu'un criminel beaucoup plus punissable, qui est par exemple le meurtrier en série.
En somme, ce qui est finalement très favorable à beaucoup d'auteurs de crimes, c'est le caractère absolu de l'opposition. Voilà. Entre culpabilité jusqu'à la peine de mort ou travaux forcés à perpétuité.
Exactement.
Et l'acquittement. Il n'y a pas d'échelle. Depuis lors, le Code pénal a réintroduit, je pense à l'article 324, alinéa 2, ma science est récente, a réintroduit des possibilités de graduation dans la peine.
Oui, on a donné d'abord aux jurés, en 1932, le droit de décider de la peine, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, ils ont pu ainsi moduler les peines. Progressivement, la loi a permis ensuite, bon, il y a eu différentes lois, de condamner à une peine moins importante que si ça avait été une autre forme d'homicide. Donc au lieu d'acquitter, depuis 50 ans, 60 ans, au lieu d'acquitter, on peut condamner de façon moins sévère, mais condamner quand même.
C'est peut-être une explication du fait qu'on retrouve plus de sévérité dans les dernières décennies à l'égard des
crimes passionnels. Alors, dans les dernières décennies, il y a en fait plusieurs critères qui interviennent aussi. Il y en a une augmentation, sans aucun doute, de la sévérité des peines, qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Ça tient au fait que, d'abord, les magistrats professionnels sont maintenant inclus dans le jury depuis 1942. Ils ont en général tendance à pousser à davantage de sévérité. Bon, puis ça tient plus globalement à une tendance générale qui ne concerne pas simplement les crimes passionnels, qui est que tous les crimes, en particulier de violence, sont punis de plus en plus sévèrement depuis une trentaine d'années. Donc il ne faut pas isoler le crime passionnel de cet ensemble-là. Il faut voir simplement que les crimes de violence, qu'ils soient passionnels ou pas, sont condamnés de plus en plus sévèrement.
Cette sévérité répond à l'appel qu'un homme comme Ferdinand Brunetière, responsable de la revue des Deux Mondes, très conservateur, très, très hostile à la République en marche, Ferdinand Brunetière blâme ce laxisme des tribunaux et des jurés. Cet article a été publié dans la revue des Deux Mondes en 1891.
Ce qu'il y a d'inexcusable et de profondément odieux dans le crime passionnel, c'est que le criminel n'y met pas un instant le droit ou la vie même des autres en balance avec la satisfaction des plus grossiers appétits. Et nous, malheureusement, c'est ce que nous refusons aujourd'hui d'y voir. Elle me résistait, je l'ai assassinée. Ou il ne voulait pas m'épouser, je l'ai vitriolée. Non seulement nous ne sentons plus ce qu'il y a d'animal dans ces cris de la vanité féminine ou de l'orgueil des sens exaspérés, mais peu s'en faut en vérité que nous n'admirions ceux qui les poussent quand encore nous ne les envions pas. Et pour leurs victimes, nous les plaignons sans doute, mais au fond nous ne sommes pas éloignés de croire qu'elles ont mérité leur sort. Ni l'amour, ni la haine qui tue n'ont rien de moins coupable que la cupidité qui vole. Et j'ajoute qu'en dépit de l'apparence, ils ont quelque chose de plus dangereux qu'elles, comme ayant quelque chose de plus antisocial.
Vous aurez salué, Benoît Garneau, la citation de « Elle me résistait, j'ai l'assassiné », qui prouve qu'à quel point les esprits conservateurs ont été marqués par Alexandre Dumas et cette formule d'Antony.
Ça pose tout le débat, en fait, finalement, entre ceux qui considèrent qu'un crime passionnelle est moins grave parce qu'il y a des justifications qui ne sont pas directement crapuleuses. Et puis ceux qui considèrent au contraire qu'un crime passionnel est aussi grave que n'importe quel autre crime, parce que les autres crimes, finalement, ils sont aussi poussés par des passions. Le voleur, après tout, s'il va voler, ce n'est pas passion de l'argent. Pourquoi est-ce que la passion amoureuse serait-elle plus pardonnable que la passion de l'argent ou la passion d'autre chose?
C'est ce que disait d'ailleurs un président de tribunal qui s'appelait Sauvageol, en 1901, et qui défend cela au grand scandale d'un certain nombre d'esprits de gauche, en disant, de toute façon, la passion est toujours présente, et si vous êtes indulgent envers elle, vous serez toujours indulgent, ce qui est tout à fait regrettable pour la société dans son ensemble.
Et je crois que, justement, cette idée que la passion amoureuse est aussi grave que toutes les autres passions est aujourd'hui une idée qui est passée majoritairement, alors qu'elle ne l'était sans doute pas, ou beaucoup moins, il y a un siècle ou un siècle et demi. Dans la mesure où on considère aujourd'hui que... Enfin, pas tout le monde, parce qu'il y a encore des crimes passionnels, mais que chacun a sa propre liberté et que s'en prendre à celui qui refuse un amour ou qui l'arrête, c'est s'en prendre à la liberté d'autrui et qu'on n'a pas à faire ce genre de choses.
On peut signaler d'ailleurs qu'en 1951 encore, lorsque un secrétaire d'État, Pierre Chevalier, maire d'Orléans, est assassiné pour infidélité par sa femme, Yvonne Chevalier, on considère dans la presse que l'acquittement dont celle-ci bénéficie est tout à fait discutable.
C'est en effet la dernière affaire qui a vraiment fait scandale parce qu'il y a eu acquittement. Presque autant que l'affaire Caillot, la veille de la Première Guerre mondiale, qui a été un tournant en fait quand Madame Caillot a assassiné Calmette, le directeur des Figaro. Qu'elle a été acquittée, le public a sifflé, a hué, alors que 20 ans ou 30 ans auparavant, dans certains cas, il y avait des applaudissements quand il y avait des acquittements.
Cette affaire, évidemment, était tout à fait retentissante et la presse à l'époque, on est juste avant la Grande Guerre, était beaucoup plus pleine de récits du procès, ça ne nous étonnera pas après coup, que des conséquences de l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo. Louise Weiss, qui a été une grande journaliste sous la Troisième et la Quatrième République, avait interrogé Madame Caillot sur le sens, la signification de son geste. Elle le raconte, interviewée par Pierre Lost sur France Culture le 10 mars 1970. C'est assez curieux.
Vous vous rappelez que Joseph Caillot était un personnage très important. Il avait déjà été ministre plusieurs fois, je crois, au moment où sa femme, Henriette Caillot, a tiré sur le directeur du Figaro, Calmette, parce que Calmette avait commencé une série d'articles sur l'intimité du couple Caillot et sur les aventures que Caillot avait eues avant son mariage. Alors, comme chacun sait maintenant, Madame Caillot, ivre de jalousie, de colère, a tiré sur Calmette qui s'est effondrée à ses pieds. À ce moment-là, jeune fille... Je n'ai pas beaucoup entendu parler de l'affaire Caillot parce que ma famille trouvait indécent qu'une jeune fille fût au courant d'une pareille histoire d'amour et d'un assassinat de cet ordre. J'ai eu l'occasion de parler à Madame Caillot, qui était fort jolie, qui est restée fort jolie très longtemps, de ses sentiments au moment de l'assassinat qu'elle avait perpétré. Notamment, je lui ai demandé très précisément un jour de confidence « Et qu'avez-vous pensé lorsque vous avez vu Calmette s'effondrer à vos pieds ?» Elle a réfléchi un instant et elle m'a dit « Eh bien, finalement, je crois que j'ai pensé que je n'aimais pas le président Caillot à ce point, tout au point. Car il y avait eu, dès ce moment-là, des difficultés dans le ménage. Et je me suis toujours demandé, et je crois que c'est vrai, si elle n'avait pas tiré sur Calmette, non seulement par vengeance contre ce journaliste, mais aussi pour préserver son ménage et rendre son union avec Caillot indissoluble. Car évidemment, après ce coup de feu, Caillot n'a jamais pu divorcer. Même s'il en avait eu envie, c'était impossible. Ce drame l'en aurait empêché.
On raconte d'ailleurs que Joseph Caillot, qui avait de l'humour à la fin de sa vie, ayant reçu à sa table, à la fin des années 30, un ami ayant constaté que sa femme avait un mouvement d'humeur, lui avait dit « Méfiez-vous, mon cher ami, il ne faut jamais pousser ma femme à bout ». Cela étant, le propos de Louise Weiss montre bien la complexité des sentiments. On doit rappeler que Calmette avait entamé une campagne contre Caillaud, ministre des Finances, et qui était l'initiateur de l'impôt sur le revenu, ce qui le rendait très populaire parmi beaucoup de milieux conservateurs. Calmette s'apprêtait à publier des lettres intimes qu'avait adressé Caillaud à sa femme avant leur mariage, ce qui était évidemment déontologiquement discutable.
Oui, c'était pas très délicat. Mais cette affaire, elle a marqué un retournement, non seulement dans l'opinion, mais surtout dans la presse, qui a eu le sentiment qu'elle était allée trop loin en présentant des affaires de crimes passionnels assez souvent avec sympathie pour le coupable. À force de présenter de cette façon, bon nombre de journalistes ont fini par penser qu'on allait risquer de donner l'impunité aux criminels, quels qu'ils fussent. Et cette affaire-là a été tout à fait symptomatique, a permis un retournement dans la presse. Et après, on voit une attitude différente dans la presse, qui a évolué d'ailleurs, qui a continué à évoluer jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans la presse, en général, le criminel passionnel est présenté comme vraiment comme un criminel qui n'a pas de justification véritable à son acte, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques décennies.
Donc on revient en fait à des comportements, des attitudes, des réactions qui étaient plutôt celles de l'ancien régime.
Oui, exactement. Exactement. On a eu une période de relative tolérance. Il ne faut pas exagérer quand même, parce qu'on a tendance à mettre en exergue un certain nombre d'acquittements. Il faut quand même voir que même au XIXe siècle, la majorité des criminels passionnels étaient condamnés. Ceci dit, il y avait un certain nombre d'acquittés pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Mais cette relative mansuétude, je dis bien relative, n'existait pas avant la Révolution, n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, un criminel passionnel, il est condamné au moins à 15, 20, 25 ans de réclusion. Et quand même, ce passionnel ne peut plus échapper à un châtiment pénal aujourd'hui.
Merci beaucoup, Benoît Garnot. Votre ouvrage sur lequel nous avons fondé largement cette conversation s'appelle « Une histoire du crime passionnel, mythe et archives ». Il vient de paraître chez Belin. Et puis, je voudrais également évoquer votre livre paru au Nouveau Monde, celui-ci, « Histoire des juges en France, de l'Ancien Régime à nos jours », qui est plus large, évidemment, dans la focale de votre curiosité. Vous avez également publié une histoire de la justice en France, du XVIe au XXIe siècle, chez Gallimard, en 2009. Et puis, je veux rendre hommage au livre d'André Roche, « L'amour à la lumière du crime », 1936-2007. Il compare deux crimes spectaculaires, un livre paru chez Hachette Littérature, en 2009. Vous allez continuer de travailler sur les très beaux crimes ?
Oui, c'est ma vocation. Enfin, c'est mon habitude. Mais je vais travailler sur les bigames maintenant, ce sera plus gai.
Alors bon, ben on vous réinvitera. Les bigames, oui. Ils sont très nombreux en France ?
Non, je pense pas, mais ils sont pittoresques. Ça vaut. Et puis c'est assez révélateur de pas mal de choses. Et puis il y en avait sans doute beaucoup plus autrefois. Mais ils sont difficiles à trouver. Mais j'ai bon espoir quand même d'en trouver un certain nombre.
Je suis sûr que votre perspicacité en dénichera suffisamment pour en faire un livre. Merci beaucoup. Vous pourrez trouver, chers auditeurs, chères auditrices, une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés, documents sonores, les chansons. Et vous pourrez également écouter, réécouter et naturellement télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de la Pologne, qui évidemment... C'est le renouveau du triangle de Weimar avec l'Allemagne et la France. La Pologne à nouveau est mise en avant par les événements d'Ukraine et son rôle est voué à augmenter. Nous allons parler de la Pologne telle qu'elle a été présente dans les débats français. J'inviterai pour cela Laurent Theis. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guérou, une émission réalisée par Patrick Molinier, le revoilà parmi nous, avec Clément Daté à la prise de son, Romain Couturier à la discothèque, et pour les Archivina, Amélie Briand-Lejeune. Et maintenant, dans quelques instants, Dominique Rousset pour l'économie en question.